am the magnificent. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un nouveau lieu culturel à Arras, un nouveau lieu qui a la particularité de se situer dans l'enceinte d'un lycée. Ça s'appelle l'Être-Lieu et ça sera inauguré le 19 novembre prochain.
Je m'appelle Grégory Fenoglio, donc je suis professeur d'art plastique au lycée Gambetta. Je m'occupe des optionnaires d'art plastique en classe préparatoire d'Hippocagne et de Cagne. Et j'ai également des élèves de première facultative art plastique.
Alors peut-être première question autour de ce lieu, ce nouveau lieu culturel à Arras. Comment est née l'idée en fait ?
Alors l'idée en fait s'est développée en juin, en fin d'année scolaire. En juin, nous sommes réunis entre professeurs et étudiants avec l'idée de créer une association de loi 1901 qui permettrait de faire des propositions culturelles pour la ville d'Arras avec une programmation plutôt basée sur des cultures contemporaines, de l'art contemporain. Pour moi, en tant qu'enseignant, c'était intéressant parce que ça permettait aux élèves d'avoir une confrontation et une rencontre particulière avec l'art. Et on s'est dit que ça pourrait être aussi intéressant de l'ouvrir à la population arageoise. Et du fait de la fusion des deux établissements Gambetta et Carnot, le proviseur, M. Speck, a décidé d'investir justement des anciens ateliers électrotechniques pour les réhabiliter, pour justement faire un centre culturel. Donc l'idée, c'est un centre culturel qui se fonde sur un ancien établissement, sur d'anciens ateliers réhabilités, transformés, autour desquels on trouve les salles de classe, hein, parce que c'est un lieu d'enseignement et en même temps un lieu culturel. Ce qui fait que l'association fonctionne grâce aux enseignants, mais elle fonctionne surtout grâce aux étudiants qui s'investissent dans les choix de programmation, dans l'accueil du public, dans la publicité, etc. Et qui pourront également accueillir le public, c'est-à-dire sous une forme de médiation culturelle, hein, c'est-à-dire que si on accueille un public pour des expositions, une conférence, du théâtre, de la danse contemporaine, il faut évidemment accueillir les gens. On a également l'idée de produire et de réaliser un journal qui sera à destination du public pour leur faire approcher en quelque sorte la programmation. Et en même temps, pour l'enseignement, ça constitue un vrai support de réflexion, un vrai travail théorique. Donc l'idée, c'est d'associer à la fois enseignement et centre culturel. Ce qui fait que ce qu'on expérimente, le laboratoire, je dirais, pédagogique avec les étudiants, pourra être mis aussi au service de la population.
Donc là, on a accédé par la cour en fait, de l'ancien lycée Carnot, hein, et on monte quelques marches, et puis on arrive dans une salle, c'est ça ? On y va ?
Alors on avance dans un couloir, et c'est un commentaire en direct, n'est-ce pas ? Et alors c'est une salle qui s'appelle la salle Bizet, du nom d'un professeur, d'un ancien professeur, donc espace technologique Serge Bizet, et donc qui deviendra le lieu de manifestation de l'Être-Lieu, hein, désormais, puisque c'est le nom de cette association. Alors l'idée d'avoir appelé l'Être-Lieu, c'est de se dire justement ce lieu a une identité, hein, à la fois par rapport à l'enseignement qu'il y a pu avoir. C'est une salle où auparavant il y avait des machines, il y avait des jeunes gens qui travaillaient sur ces machines, et donc là on est dans une logique de réhabilitation. Donc évidemment les machines sont parties pendant les grandes vacances. C'est un moment de suspense. Voilà, donc vous arrivez dans l'espace Bizet, qui est actuellement en transformation. Hein, donc les murs sont en train d'être repeints. Tout le système électrique qui servait auparavant pour les machines a été enlevé. Donc évidemment, il a encore son identité, il est encore un peu dans son jus, hein, de mémoire, mais il est déjà en transformation. Alors on ne souhaite pas faire table rase, je dirais, de son architecture et de son identité. Justement, on veut jouer avec, hein, on veut s'y associer. Et les artistes qui seront invités plutôt dans une logique de résidence, de s'installer ici pendant une certaine période, pourront aussi dialoguer avec ce lieu. Ils auront aussi la possibilité de le transformer. Transformer ses fonctions, ses passages, agir avec le lieu. Donc c'est pas un lieu simplement d'accrochage et de monstration culturelle, hein. C'est aussi un lieu où s'invente une culture particulière par rapport à ce lieu. D'où l'expression l'être-lieu, une identité qui doit naître aussi de la rencontre des artistes et de cet espace. Et donc les artistes peuvent aussi interroger la mémoire du lieu, hein, la question technologique, le fait que c'est un atelier, etc., etc. Là, on n'a pas d'a priori, je dirais, sur, le, sur les productions qui seront développées ici.
On l'a bien compris, c'est un projet avec des professeurs, une équipe d'enseignants et aussi des élèves. Oui. Alors comment ça se passe pour la programmation? Est-ce que c'est une programmation partagée entre les élèves et les enseignants? Ou est-ce que c'est les enseignants qui choisissent? Comment ça se passe un peu?
Alors on essaye de fonctionner d'une façon démocratique, en concertation, c'est-à-dire que les élèves qui sont investis dans la vie associative le jeudi entre 16h et 18h ont comme mission de se rapprocher de certains partenaires, de la fac d'Arras par exemple, de certains musées, de certains artistes, pour lier des contacts, envisager des projets dans différents domaines, pluridisciplinaires en tout cas. Et ensuite, ces élèves se réunissent, il y a une véritable concertation, une discussion. On est plutôt parti actuellement dans l'idée de fonctionner sur un principe de festival. Donc il y a un premier festival proposé pour l'inauguration du 19 novembre qui est sur le thème de la curiosité. Alors ce thème a été choisi initialement par rapport à une conférence d'une philosophe qui s'appelle Annie Ibrahim, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la curiosité ?» et qui viendra faire une conférence le 22 novembre entre 17h et 19h sur un commentaire, en tout cas sur le livre qu'elle a écrit. Et donc on s'est dit avec les étudiants qu'il serait intéressant de fédérer aussi d'autres manifestations autour de ce thème de la curiosité. C'est ainsi qu'est née l'idée d'inviter une artiste contemporaine qui s'appelle Véronique Bélan, qui travaille des installations principalement avec le son. Donc elle va réaliser une installation sonore dans cet espace. Et alors du coup on lui a lancé également le défi d'interroger cette notion de curiosité, et donc elle a fait des enregistrements de cet espace, à la fois lorsqu'il est occupé par les étudiants, les professeurs, avec certaines captations sonores, et d'autres moments le soir et la nuit, où justement il y a des bruits différents, elle travaille sur des fréquences sonores aussi différentes, et elle va restituer dans le cadre de son installation tout ce mixage, tout ce travail sonore par rapport au lieu. Donc c'est un peu comme une sorte de chasse au trésor, ou une chasse aux fantômes en quelque sorte. Elle vient retrouver en quelque sorte la mémoire antérieure de cet établissement, et en même temps les bruits que vous entendez sans doute en arrière-plan qui constituent la réalité du lieu actuellement. Donc voilà, elle aborde vraiment la curiosité par rapport au thème du son. On a invité également un photographe assez connu dans la région qui s'appelle Patrick Devresse, avec qui nous avions travaillé l'année dernière sur une résidence d'artiste. Et là, je lui ai proposé une carte blanche de choisir parmi toute sa collection de photographies, il a 30 ans de photographies derrière lui, deux photographies qui seront reproduites dans des formats assez monumentaux, 6 mètres sur 3, un format qui sera affiché à l'extérieur, donc dans la cour, comme une sorte d'appel qui accueillera le public vers la salle, et une autre photographie à l'intérieur de cette salle Bizet. Je ne sais pas exactement ce qu'il va présenter comme photographie. C'est un photographe, je dirais, qui se situe entre une approche documentaire et poétique. Donc c'est ce qui m'intéresse dans son travail. Et dans l'échange avec les élèves, c'était vraiment très intéressant l'année dernière. Il avait fait un travail qui s'appelait « Portrait de plasticien ». Et voilà, donc on l'a invité également. Une autre conférence qui sera proposée dans le lieu, c'est Mathieu Mercier, qui est historien, spécialiste d'Henri III, et qui se propose d'interroger la curiosité à travers cette figure d'Henri III fantasmée en quelque sorte au XIXe siècle. Et donc il fera une conférence également de 17h à 19h, mais là ce sera le mardi 20 novembre. Voilà, donc 4 jours de programmation avec des idées diverses, pluridisciplinaires, qui interrogeront cette notion. Alors on est effectivement, c'est ce que j'évoquais, dans l'idée de festival. Ensuite, on travaille déjà sur le festival de mars. On n'a pas encore déterminé un thème particulier, mais justement les étudiants prospectent, rencontrent des metteurs en scène, des chorégraphes, des artistes, pour essayer d'élaborer ce programme. Et ensuite, c'est concerter, discuter entre nous. Si vous voulez, on peut même se rendre, puisque vous arrivez justement pendant ce temps de la vie associative entre 16h et 18h tous les jeudis. Et donc là, il y a des étudiants qui sont réunis et qui réfléchissent. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est qu'il nous reste 3 jeudis avant l'inauguration. Donc ça va arriver assez vite. On s'interroge sur la façon de diffuser nos affiches et nos flyers dans la ville pour annoncer le programme. Parce qu'on aura juste une semaine après la rentrée pour avertir le public. Se poser aussi la question de l'accueil du public, c'est-à-dire que voilà, comment nous accueillons le public, comment on peut le guider vers la programmation qui est proposée, puisque les étudiants sont à l'origine des projets. Et la troisième chose, c'est techniquement comment aménager la salle en fonction des différents événements. C'est-à-dire que le mercredi, il y a un concert, bon, il faut un aménagement particulier. Le lendemain, il y a une conférence, donc il faut l'installation des tables, des chaises pour accueillir le public. Bon, il faut réussir à moduler ces différentes actions. Donc, c'est les sujets du jour.
Grégory Fenoglio, qui est professeur d'art plastique au lycée Gambetta Carnot à Arras. Et comme il nous l'a suggéré, on est allé à la rencontre de quelques-uns des élèves impliqués dans ce projet de lieu culturel, l'être lieu.
Moi c'est Thomas, je suis en deuxième année de prépa littéraire.
Moi c'est Marion, je suis en deuxième année de prépa aussi.
Moi c'est Alexis, je suis en deuxième année de Cagnes Histoire de l'Art.
Alors moi c'est Baptiste, je suis en première année de prépa littéraire aussi.
Moi c'est Anaïs, je suis également en première année de prépa littéraire.
Bah en fait l'être lieu c'est une association qui vise à faire partager la culture et l'art dans la région d'Arras, puisqu'en fait comme on a des locaux qui peuvent accueillir des artistes et des conférenciers, on s'est dit que c'était pas mal de faire partager ça dans la région pour que, pas que les étudiants, mais aussi les Arageois qui puissent accéder à la culture. On en prépa littéraire, il y a beaucoup de nous se destinent à des métiers dans la culture. Donc c'est une expérience qu'on peut mettre sur le CV. En fait, on touche déjà à la matière. Quand on arrivera dans le premier boulot, on ne sera pas complètement perdu. On aura déjà fait cette expérience parce qu'en fait, nos permanences, ça se construit comme des rédactions de presse. Enfin voilà.
En fait, c'est Monsieur Fenoglio qui nous en a parlé l'année dernière, comme ça. Il nous a dit, Monsieur Speck nous propose d'utiliser ces locaux qui étaient amenés à disparaître, peut-être devenir des parkings, un hôtel, on ne sait pas, des locaux qui sont amenés à disparaître pour créer un centre culturel. Donc, il nous en avait parlé et tout de suite, on était super enthousiastes. Ça tombait un peu au même moment que l'exposition des premières ailes qui avaient été faites avec Patrick Devresse. Donc pendant les vacances directement, on est venu dans les locaux, on a aidé à peindre, on était super enthousiastes. Et finalement, aujourd'hui, on vit dedans, quoi. Il y a... Tout à l'heure, Monsieur Fenoglio disait que nos salles de cours, elles sont juste à côté d'Espace Bizet. C'est vrai, il n'y a qu'un pas, en fait, entre les cours et le centre culturel. Donc c'est vraiment, je pense, une expérience unique pour des élèves de prépa et des élèves tout court, je pense, d'être en classe et après d'avoir cette bouffée d'oxygène, de venir dès qu'on peut travailler un peu sur le projet, rencontrer des artistes, des professionnels, des médiateurs culturels. C'est juste une opportunité immense, en fait, pour nous.
Comme disait justement Marion, c'était intéressant pour nous l'année dernière d'apprendre qu'on allait pouvoir s'engager vraiment dans ce lieu. Puisque en prépa littéraire, on prépare essentiellement un concours, le ENS, et donc c'est énormément de culture amalgamée en 2 ans. Et ici, c'est aussi une manière de concrétiser tout ça, notre culture, dans quelque chose de vraiment concret, c'est-à-dire la création d'événements culturels.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est amené à comprendre un peu comment fonctionne le monde de l'art, parce que là, par exemple, on va accueillir Véronique Bellan, et on a eu l'occasion de la rencontrer. Elle nous expliquait d'où elle venait, elle vient du Frénois, elle nous expliquait comment ça marchait, tout ça. Et du coup, on peut voir un peu où sont les grandes écoles d'art, on repère un peu où sont formés les artistes, tout ça. Et voilà, ça c'est un côté aussi super intéressant.
Alors c'est un projet associatif, mais dans un cadre, dans un milieu scolaire en tout cas. Alors est-ce que la relation hiérarchisée qu'il y a entre un prof et des élèves, on la retrouve aussi dans l'association? Qui a le pouvoir? C'est plutôt les profs, les élèves, se partager, quoi.
Bah, vraiment, le but de l'association, c'est par des étudiants, pour des étudiants, pas que, mais c'est vraiment par des étudiants. On est fait pour être autonome, on est en groupe autonome. Les professeurs sont là juste pour nous aider, pour une autorisation, pour venir nous indiquer des pistes, pour chercher la hiérarchie, on la retrouve pas trop, en tout cas dans l'association. Après, quand on retourne en cours, il y a la relation normale et les profs, mais dans l'association, ouais, c'est une association d'étudiants, donc les profs sont là pour nous aider. C'est presque des tuteurs, en fait. On va pas aller leur serrer la main et faire des blagues avec eux non plus, il y a un certain respect, mais c'est plus détendu qu'en cours, quoi. Puis voilà, ils sont vraiment une relation de tuteur. Ils nous apprennent pas, ils sont là pour nous aider.
Même s'il y a une différence quand même de rapport entre celui de l'association et celui du cours, c'est quand même quelque chose qui... les deux choses sont liées en fait, puisque ce qu'on fait, par exemple, nous en histoire de l'art, est intimement lié en fait à ce qu'on fait avec l'association, puisque on peut exploiter nos connaissances et justement apprendre à gérer un lieu culturel, ce qu'on pourrait faire peut-être plus tard pour les concours qu'on passerait. Et donc pour Monsieur Fenoglio, je pense que c'est aussi une manière de continuer son métier de professeur. Dans l'association, il y a une continuité en fait. Et même pour nous, en tant qu'étudiants, quand on, comme beaucoup d'entre nous, vont sûrement être professeurs, puisque l'ENS forme essentiellement des futurs profs, c'est aussi une manière d'appréhender le métier de professeur de manière moderne. Puisque être professeur, c'est pas simplement arriver et distribuer un cours, c'est aussi avoir une relation pédagogique, un lien et une formation.
Pour l'instant, on n'a pas tellement proposé des artistes parce qu'on est encore vraiment dans la création, dans le jus de l'association. Mais ça arrive souvent qu'un élève ait une idée, si on allait voir, Hagen Dazs pour leur demander s'ils veulent nous sponsoriser. Enfin, c'est ce genre de propositions pour l'instant qui se font le plus souvent. Et je ne pense pas qu'en fait, il y a encore vraiment de propositions qui a été refusée. Je pense que pour l'instant, c'est assez...
Ce qui est de la programmation culturelle, le problème, c'est celui des réseaux, en fait, puisque nos professeurs sont aussi là pour ça, parce qu'ils ont les réseaux qui permettent d'inviter des personnes, que ce soit conférenciers ou artistes. Après, il y a certains étudiants qui peuvent proposer aussi, selon leurs moyens, des personnes à inviter. Par exemple, Marion, tu voulais t'occuper, par exemple, de la musique. Inviter des groupes de musique, appeler par exemple, des personnes pour venir faire de la musique contemporaine ou autre, ou alors d'autres personnes qu'on pourrait connaître, des liens qu'on pourrait fixer, mais c'est vrai que c'est plus difficile puisqu'on n'a pas forcément les réseaux à notre âge.
Donc vous vous réunissez tous les jeudis, hein, c'est ça, de 16h à 18h. Alors de quoi vous parlez aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on se concentre surtout sur la façon de diffuser les pubs pour les prochains événements. On réfléchit à où mettre les affiches, quel happening créer pour attirer les gens jusqu'ici en fait. Donc là on se cantonne surtout à ça parce que les événements vont arriver rapidement, mais sinon on réfléchit aussi à tout ce qui est sponsoring, mécénat, tout ce qui touche à l'association de près ou de loin.
Est-ce qu'il y a eu un débat, une discussion sur le sponsoring, l'indépendance de l'art, tout ça, ou pas tellement? Non,
pas spécial.
Monsieur Fenoglio nous expliquait que ça, c'était pas forcément dérangeant étant donné qu'on est en train de naître et qu'on a besoin d'aide pour faire fonctionner l'association. Donc pour l'instant il n'y a pas eu ce genre de débat.
Les sponsors pour l'instant ils se posent surtout au niveau de la question alimentaire et je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger la free food dans ce genre d'événement. Donc je pense que c'est important, ouais. Enfin, les sponsors en tout cas alimentaires, c'est une sorte d'appel, quoi. Enfin, c'est bon, ouais.
S'il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas d'art, quoi.
Ouais, j'ai pas dit ça, mais en gros.
Y a un budget de l'association, comment ça se passe? C'est vous qui le gérez, ça aussi?
Pour le budget, alors c'est un monsieur, j'ai oublié le nom, désolé. Le trésorier, oui, qui s'occupe, je parlais du prénom de celui de... Enfin bref, c'est un homme de l'administration qui s'occupe en fait de tout ce qui est l'argent de l'association. Donc pour l'instant, nous n'avons récolté au niveau de l'association que l'argent des adhésions. Les adhésions qui sont de 5 euros pour adhérer à l'association. Et le nombre de tous les adhérents donné 5 euros. Et pour l'inauguration et les premières manifestations culturelles, elles ont été payées à la fois par les adhésions et par le lycée qui gère également l'association.
Et bien, alors tout le monde peut adhérer? Par exemple, moi, est-ce que je peux adhérer à l'association ou...
Oui, tout le monde. peu importe l'âge, peu importe le métier, etc. Étudiant ou non, tout le monde peut adhérer en fait à l'association.
On espère justement avec les inaugurations faire venir d'autres adhérents, que ce soit je sais pas, des gens de la communauté urbaine ou de la boulangerie d'en face. Enfin, vraiment, on espère que ça puisse intéresser le plus grand nombre de personnes et que les gens adhèrent justement à l'association.
On veut aussi travailler avec les écoles, lycées de la, les collèges de la région, parce que des primaires, ouais. On se dit que les lycéens et les adultes, c'est bien. Si on les fait venir les enfants, c'est pas mal aussi. Donc ouais, on va travailler. Il y a un projet de travailler avec des collégiens dans des collèges d'Arras courant 2013.
Ici, il y a quelques années encore, c'était vraiment un lycée professionnel avec beaucoup de classes, donc des classes techniques. Et c'est en train de se transformer donc un peu en centre culturel. Est-ce qu'il y a des gens, je sais pas, des profs ou des élèves qui voient ça d'un mauvais œil en se disant, on nous retire nos classes pour implanter un centre culturel?
Alors forcément, c'est vrai que ça n'a pas été évident au début d'exprimer l'idée de créer ce lieu culturel ici, puisqu'avant, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y avait des classes technologiques et industrielles, ce que sont d'anciens bâtiments industriels. Le problème étant que les classes qui étaient ici n'ont pas du tout été supprimées, elles ont été déplacées sur un autre établissement, puisque les lieux n'étaient plus du tout conformes en fait à leurs études. Les lieux ici sont des lieux industriels, alors que maintenant toutes les classes technologiques travaillent plutôt dans des bâtiments type laboratoire, comme un peu les laboratoires de physique chimie qu'on peut connaître au lycée. Et donc, quoi qu'il en soit, les élèves devaient être déplacés. Donc après, c'est vrai que c'est un travail c'est notre travail à nous en tant qu'étudiants d'avoir une relation pédagogique en fait avec l'établissement lui-même, avant même d'avoir une relation de médiation culturelle avec la ville d'Arras, pour expliquer aux professeurs, aux élèves, que ce lieu peut également être une aubaine, enfin quelque chose de bien pour eux. Puisque s'il n'y avait pas eu l'association et le déplacement des post-bac dans ces bâtiments, ces locaux industriels, les lieux auraient été détruits ou alors rachetés pour faire des choses, comme disait Marion tout à l'heure, parking ou hôtel, etc. Donc c'est notre travail en tant que médiateur culturel de discuter avec les classes. Par exemple, Élise Jacquier et moi-même, on travaille à cela avec les classes technologiques qui sont encore ici, mais en seconde essentiellement et première, pour les sensibiliser à l'association, à la culture, et avoir un partage culturel. Parce que, je voulais le souligner aussi, il ne faut pas que l'association soit un lieu de snobisme, en fait. Il faut qu'il y ait un partage à la fois de la culture dans les deux sens. Qu'on ne soit pas là dans nos... souvent entre guillemets haute sphère, à ramener simplement quelques bourgeois ou étudiants dans les lettres ou arts, mais il faut aussi que tout le monde puisse venir et profiter de ce changement de lieu.
Comme disait Alexis, on ne veut vraiment pas être des colons. Et je pense que ça peut être vraiment bénéfique, ça peut profiter à tout le monde. Par exemple, moi, je suis issue d'un BEP. Et aujourd'hui, je fais quelque chose complètement différent de ça. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour dialoguer. Par exemple, en début d'année, quand on était en train de peindre en bas dans le hall, c'est vrai que les gens passaient et ils nous regardaient un peu... comme des ovnis. Mais aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un changement de point de vue et ils viennent nous parler, justement, nous poser des questions. Pourquoi tu penses ça? Il y avait aussi des questions ça je comprends pas, c'est moche. Et justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'il commence à y avoir une communication, des réactions avec ce qui se passe. Et ce qu'on espère vraiment, c'est que le dialogue il soit encore plus grand dans les années à venir et que même il y ait une participation des élèves de tout le lycée, en fait, que ce soit pas réservé au post-bac et aux étudiants en art, que ce soit vraiment quelque chose qui est... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des terminales S qui viennent dans l'association et qui proposent leur point de vue, justement. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est avoir le point de vue de gens qui sont au lycée, en scientifique, tout ça. C'est intéressant pour... Je pense que c'est formateur pour tout le monde.
Ouais, et d'ailleurs, pour rebondir, on commence déjà à travailler avec ces classes, puisque un projet des élèves en bac pro... électricité qui vont en fait ça, on pense de leur donner le travail d'installer tout l'éclairage pour éclairer les œuvres en fait. Donc déjà il y a déjà une référence à, c'est ça voilà. Bon, en fait ce qui est bien c'est que eux ça leur fait un projet et nous ça nous aide. On est en gros c'est bénéfique pour les deux filières. C'est ça, le lieu a une mémoire en fait. Et on veut clairement la garder quoi. On n'est pas là pour faire table rase. D'ailleurs, on a gardé tous les on essaie de garder au maximum les anciennes armoires. On essaie de les garder. Enfin, on fait pas table rase du passé. Au contraire, on s'en accommode et on essaie de construire au-dessus quoi. On veut pas, comme disent Alexis et Marion, on veut pas être des colons qui arrivent en terre conquise comme ça. On va faire, allez, on va dégager ça parce que c'est moche. Hop, c'est pas culturel, ça on va virer. Donc voilà, c'est ça que clairement qu'on veut faire aussi en fait. C'est dialoguer avec l'ancien Carnot pour faire devenir l'ici encore meilleur. Voilà.
Thomas, Marion, Alexis, Baptiste et Anaïs, élèves post-bac au lycée Gambetta Carnot, et donc membres de cet asso Lettres Lieux, un nouveau lieu culturel à Arras au sein des anciens ateliers du lycée Carnot. Dernier mot dans ce sujet avec le professeur Grégory Fenoglio. On lui a demandé si le fait que ce lieu culturel se trouve dans l'enceinte d'un lycée ne pourrait pas créer des situations de hiatus. Par exemple, une expo qui ne pourrait pas être montrée parce que son contenu trop trash ou trop posé pourrait déplaire à l'éducation nationale. Réponse de Grégory Fenoglio.
Mais dans tous les cas, la question elle se pose globalement lorsqu'on fait une œuvre publique. Hein. Disons, le fait qu'on soit dans un établissement scolaire, c'est pas ça qui remet en question ce genre de pratique artistique. Elle se pose systématiquement à partir du moment où on présente la nudité, où on présente des images qui suscitent une certaine violence, une forme de terrorisme, bon, ou une forme de prosélytisme. Hein. Donc, c'est évidemment en questionnement, il faut le prendre en compte par rapport aux étudiants, mais ça se produit n'importe où. Enfin, je veux dire, quand on est au Centre Pompidou, hein, qui est une institution nationale, ou même au Palais de Tokyo, qui est l'institution vraiment contemporaine, les mêmes questions se posent. Ça veut dire, est-ce qu'on interdit des expositions aux enfants? Il y a eu quelques années, il y a de ça 2-3 ans, la rétrospective de Larry Clark au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, avec toute une série de photographies présentant une adolescence américaine avec une forme de dépravation sexuelle liée à la drogue, etc. Bon, initialement, l'exposition avait été ouverte au public, et puis ensuite elle a été interdite au moins 18 ans, parce que ça, il y a eu un débat qui a été aussi de protectionniste d'une certaine façon. Ça veut dire que les musées où on s'interroge sur la possibilité de montrer ce genre d'œuvre, parce qu'il y a des associations justement familiales qui peuvent aussi intervenir et demander une forme de censure par rapport à ce genre d'image. Donc ces questions en fait elles traversent, je dirais, l'art contemporain ou l'art, même l'histoire de l'art. Hein. Il suffit de renvoyer à l'origine du monde de Courbet. Par exemple sur Facebook, il est impossible de poster cette image sur Facebook parce que c'est une image qui va être directement censurée par Facebook, alors que c'est une image qui appartient au patrimoine culturel de la France, parce que c'est une œuvre qui est présentée au musée d'Orsay. Et donc cette question, elle interroge la monstration des images, dans quel contexte ces images peuvent être montrées, est-ce que c'est justement un journal, l'accueil d'un public, ça permet aussi peut-être d'aborder ce genre de questions. Donc nous, on ne les refuse pas du fait d'être dans un établissement scolaire, on a conscience que si on développait ce genre d'image, ou si on montrait ce genre d'image, il faudrait faire tout un travail pédagogique ou un accueil particulier pour les recevoir. Et ensuite distinguer le public qui pourrait les voir. Les photographies de Larry Clark, par exemple, sur la nudité, il est bien évident qu'un enfant ne peut pas les regarder, en toute innocence. Quoi. Il faut qu'il soit préparé, il faut remettre dans le contexte sur la prise de vue. Larry Clark a lui-même vécu des événements liés à la drogue, etc. Il est au cœur véritablement de ces groupes sociaux marginaux qui lui permettent de faire des photos. Il en fait une forme de témoignage artistique. Bon, voilà, quand on replace déjà dans le contexte, on ne regarde déjà plus les images comme de simples images de pornographie. Donc voilà, il faut, avec l'art et avec toute forme d'image d'ailleurs, il faut faire une forme de pédagogie. Et faire un centre culturel, c'est pas simplement afficher des images et puis débrouillez-vous, venez les regarder et repartez chez vous. Non, c'est un fait culturel, c'est-à-dire on les interroge. Voilà, donc par rapport à votre question, le fait que ça soit dans un établissement, c'est pas un, vous avez employé le mot de hiatus, c'est pas du tout un obstacle, c'est justement voilà, un sujet de discussion avec les étudiants ou même avec des collégiens qui peut être très très intéressant, au contraire.
L'inauguration de l'être-lieu se fera avec un cycle culturel sur le thème de la curiosité. Donc c'est du lundi 19 au vendredi 30 novembre. Au programme conférences, petits concerts, installations sonores et rencontres autour de la photo. On en reparlera sur PFM. D'ici là, vous retrouvez l'être-lieu sur internet, notamment sur le blog l'être-lieu sans accent tout collé.tumblr.com.